Voici les titres du journal.
L'entreprise Sanaro SA, basée à Vouvry, pourrait fermer ses portes en 2022 et licencier ses 80 employés. Une procédure de consultation est actuellement en cours, mais la situation révolte les syndicats. Le huis clos instauré au Grand Conseil Valaisan le 5 mai dernier ne restera pas à lettre morte. Les trois groupes de la famille C ont déposé cette semaine une résolution qui demande l'interdiction du huis clos lors de l'élection à l'ordre judiciaire. Le Grand Conseil vaudois a accepté hier de débloquer un crédit de 50 millions de francs afin d'encourager le transfert modal. Le montant servira principalement à augmenter la cadence des bus régionaux. Plusieurs lignes de la région seront ainsi développées pour encourager les pendulaires à délaisser la voiture. Et en motocyclisme, les funérailles du pilote fribourgeois Jason Dupasquier ont eu lieu hier à Bulle. À cette occasion, plusieurs motards chablaisiens ont tenu à rendre un dernier hommage au jeune homme décédé à l'âge de 19 ans.
Et pour la météo, un temps assez ensoleillé en pleine pour cet après-midi. Il sera plus nuageux en montagne. Et pour demain, Météo Suis nous annonce un temps bien ensoleillé. On en parle de cette météo à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Blom. Bonjour Valérie.
Bonjour. 80 emplois sont menacés à Vouvry en cause annonce de la possible fermeture de la société Sanaro SA en 2022. Spécialisée dans la production de compléments alimentaires et édulcorants, elle vient de perdre son plus grand client. L'entreprise signale également dans un communiqué souffrir du Francfort et l'impossibilité pour elle de remplacer ses infrastructures. Une procédure de consultation a donc été ouverte hier afin de chercher une solution alternative. Une nouvelle qui a étonné Blaise Caron, secrétaire régional d'Unia Valais. Il l'a dit à Léa Journaux.
J'étais extrêmement surpris d'apprendre cette volonté de fermeture, d'autant plus que d'après ce que j'ai compris, l'entreprise n'a pas demandé de chômage technique avant de décider de vouloir fermer. C'est une catastrophe pour les personnes, bien sûr, et puis pour toute la région du Chablais.
Le licenciement donc d'à peu près 80 personnes à Vouvry, même si ce sera que fin mars 2022, que c'est que hypothétique pour le moment. Enfin voilà, c'est quand même un nombre important de personnes qui devraient se retrouver sans emploi.
Effectivement, d'autant plus qu'ils sont des emplois industriels. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'emplois industriels dans le Chablais. Si ces licenciements devaient se concrétiser, c'est vraiment une perte énorme pour les personnes concernées et aussi pour le tissu économique du Chablais. Ça me laisse sans voix.
Pour le moment, vous n'avez pas encore pris contact avec les employés et puis la société. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu ?
Alors, il faut qu'on réfléchisse à la stratégie qu'on va faire. On va prendre contact, on va voir si l'entreprise est d'accord de nous recevoir et voir si les salariés souhaitent travailler avec nous dans le cadre de la consultation. Parce que maintenant, les licenciements n'ont pas encore été prononcés. Il y a une période de consultation pendant laquelle les salariés peuvent faire des propositions pour atténuer les licenciements et aussi faire des propositions pour améliorer le plan social. S'ils le souhaitent, on est bien sûr à leur disposition.
Vous l'avez dit, c'est quand même un secteur où il n'y a pas beaucoup d'emplois industriels. Comment est-ce que les employés pourraient se débrouiller pour éviter le licenciement ?
Alors, ce que je souhaite, ce que j'espère, et le canton est en général assez proactif dans ce genre de situation, c'est que comme les licenciements porteront effet seulement à la fin mars, c'est que d'ici maintenant jusqu'à la fin mars, le canton mette en place des mesures de formation, des mesures qui permettent aux salariés déjà de se profiler sur le marché du travail sans attendre d'être licenciés à la fin mars. Ça permettrait d'anticiper et de donner des opportunités aux salariés de retrouver rapidement du travail, en espérant pour cela que l'entreprise les libère, bien sûr, s'ils devaient trouver du travail avant la fin mars.
Nous avons tenté de contacter la direction de Sanaro qui n'a pas souhaité s'exprimer. Elle souhaite désormais se concentrer sur la suite et l'avenir de ses employés. La fin de la consultation est prévue pour le 21 juin.
Plusieurs lignes de bus de la région vont voir leur cadence augmenter.
Le Grand Conseil vaudois a en effet donné hier un coup d'accélérateur au développement d'une cinquantaine de lignes de bus à travers le canton. L'idée est de favoriser le transfert modal, autrement dit délaisser la voiture pour les transports publics. Les élus ont pour cela accepté un crédit de 50 millions de francs et ce montant fait partie intégrante du plan climat de 173 millions adopté l'année dernière par le canton. Les précisions de Joël Espy.
La démarche du canton de Vaud est assumée, dépenser d'abord et recevoir ensuite. S'il souhaite voir le fameux report modal augmenter de 30%, il va falloir rendre les transports publics sur route plus attractifs pour que les pendulaires délaissent la voiture. Et le moyen le plus évident est d'augmenter les cadences des horaires, à l'instar de ce qui s'est déjà fait avec le RER Vaud. Une fois que la fréquentation des lignes régionales aura pris l'ascenseur, celles-ci pourront prétendre à des autorisations supplémentaires de trafic, puis à des financements de la Confédération, et enfin atteindre des cadences de 30 minutes, voire toutes les 15 minutes en heure de pointe. La condition ultime, avoir plus de 2000 voyageurs quotidiens. Le canton a établi une liste de 20 lignes de bus d'intérêt cantonal. Y figurent la liaison Aigle-Villars et Vevey-Bossonance. Les deux sont déjà à plus de 500 voyageurs par jour. Il y a ensuite Vevey-Châtel-Saint-Denis et Aigle-Villeneuve qui accueillent environ 1000 voyageurs par jour. Il sera donc question d'augmenter leur cadence dans un premier temps aux heures creuses et durant les week-ends et de compter ainsi sur l'effet vertueux. Plus de voyageurs, plus de cadence, plus de souhaits d'investissement, donc plus de voyageurs. Il n'y a pas que les nœuds ferroviaires, notamment autour de Vevey, qui intéressent le canton. Celui-ci investira dans des lignes de bus d'intérêt régional. On parle notamment de Montet-Villeneuve ou de Montet-Bé. Toujours dans la région, les lignes touristiques pourront également profiter du fonds cantonal de 50 millions. On parle toujours de la route et de la liaison Lézin-Châteaudet, le bus qui conduit aux mines de sel ou encore Saint-Maurice-Lavey-les-Bains. Là, il est notamment question d'augmenter les liaisons en soirée.
Le canton de Vaud augmentera donc la cadence de ses lignes régionales le mois de décembre. Rose et Vert s'unissent à Blonay-Saint-Léger et la Chiesa en vue des élections communales. Socialistes et écologistes présentent une liste commune pour la course à la municipalité de la future commune fusionnée. Elle est composée de 4 noms, Thomasina Morer et Laura Ferrilli pour le PS et Ali, ainsi que Sarah Lizet et Jean-Marc Nicolet pour les Verts. Rappelons que le premier tour de l'élection se tiendra le 26 septembre, soit 6 mois après le renouvellement des autorités à travers le canton. Retard expliqué par la fusion de Blonay et Saint-Léger-la-Chiesa qui sera effective le 1er janvier.
Nouveau rebondissement dans le huis clos instauré au Grand Conseil valaisan le 5 mai dernier.
Les 3 groupes de la famille C, TSPO, CFAOPO et PDCVR ont déposé cette semaine une résolution au Parlement. Le texte demande d'interdire le huis clos lors de l'élection des membres du ministère public et du tribunal cantonal, comme dans les cantons de Berne et du Jura. Objectif pour les initiants, la transparence des débats, c'est ce qu'explique Xavier Marieton, député suppléant PDC du district de Montet.
Au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de transparence, de défense de cette transparence. Imposer un huis clos au Grand Conseil et puis exclure la presse et puis par là, disons, le peuple, c'est quand même assez scandaleux. Et puis, cette résolution a pour but d'empêcher à nouveau ce huis clos.
Dans le texte de la résolution déposée cette semaine, il y a cette phrase « Ce fut l'un des jours les plus sombres de notre Parlement ». Les mots sont assez forts quand même.
Oui, exactement. Non, c'est clair parce que ça a quand même porté une grave atteinte à la réputation du Grand Conseil. Les gens n'ont pas compris pourquoi on avait imposé ce huis clos. Et puis, c'est plus acceptable d'avoir ce genre de manigance politique au XXIe siècle. Cacher, disons, ce qui se passe au Grand Conseil, au peuple, qui a quand même un droit d'information, et puis c'est contraire à tout ce qui est transparent aujourd'hui.
Le PDC s'est offusqué contre cette demande de huis clos. Pourtant, ça se fait ailleurs. Au canton de Vaud, par exemple, tout le temps, l'élection du ministère public se fait à huis clos. Est-ce que cette méthode facultative valaisanne, est-ce que c'est pas au fond un bon compromis? Est-ce qu'on peut pas continuer sur cette route-là?
Alors, c'est vrai que c'est prévu sur le canton de Vaud. Donc, le huis clos se fait de toute manière par rapport aux élections de la justice. Une autre approche, et puis... On estime que la population a le droit de savoir si quelque chose ne fonctionne pas, disons, dans le fonctionnement de l'administration cantonale.
Favorable au huis clos le 5 mai dernier, le groupe PS et Gauche citoyenne ne bouge pas d'un iota. Pas question pour sa chef de groupe, la députée Sarah Constantin, d'accepter la résolution démocrate chrétienne.
On ne va pas soutenir cette résolution. Je pense que c'est un droit qui est donné aux députés dans le règlement du Grand Conseil. On en a fait usage et puis insinuer qu'on doit nous enlever ce droit-là, c'est insinuer qu'on en a fait mauvais usage.
Et justement, est-ce que vous estimez aujourd'hui que cet usage le 5 mai dernier lors de l'élection du ministère public était une erreur ou au contraire vous signez et persistez?
Non, ce n'était pas du tout une erreur. Les personnes qui ont voté pour le huis clos l'ont fait en toute connaissance de cause. Et puis je pense que c'est aussi peut-être être un peu... mauvais perdant, pour utiliser cette expression. Et si c'était à refaire, je pense que la majorité du Parlement reprendrait cette décision-là.
La résolution a été déposée lundi. Elle figurera à l'ordre du jour du Grand Conseil valaisan au plus tard dans 6 mois. C'était un sujet réalisé par Didier Morard. Le Valais garde un œil sur le loup. Le service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune propose sur sa page internet un accès à 2 nouvelles cartes interactives. La première représente les observations de présence du grand prédateur dans le canton. La seconde indique quant à elle les cas avérés de prédation sur les animaux de rente. Cet outil, mis à jour en permanence, permet notamment une meilleure anticipation des mesures de protection des troupeaux.
La municipalité de Vevey a présenté hier son nouveau visage.
Plus jeune, plus féminin aussi, l'exécutif veveyan va passer de 5 à 7 membres dès le 1er juillet. Les différents dicastères ont été attribués, ont été présentés hier en conférence de presse. Les précisions de Joël Espy.
Il y a encore quelques hésitations dans les voix au moment de la présentation. La tâche n'est pas facile, reformer un exécutif entier avec des départements qui changent et des néophytes aux commandes. Après une centaine d'heures de travail déjà, c'est chose faite. Le futur syndic Yvan Lucarini, embauché à 80%, hérite notamment des finances, du secrétariat général et des RH, les relations humaines désormais. Les intitulés ont leur sens, on a renoncé à dire direction afin de ne pas froisser les chefs de service. Gabriel Akempf hérite des départements autour de l'humain, accueil et population, cohésion sociale et d'un bureau sans chef, celui de la durabilité. Pareil pour la socialiste Laurie Villomet, en plus du dicastère famille, éducation et sport, l'enseignante prend les rênes du bureau animation et jeunesse. Laurie Villomet.
Alors l'idée c'était de regarder déjà où est-ce qu'il y avait par exemple des délégués. Il y a une déléguée à la durabilité, donc du coup on a pu créer ce bureau indépendant. Pour l'animation, comme l'équipe est très indépendante, l'idée c'était de garder cette indépendance-là puis qu'elle puisse vraiment après faire de l'animation qui touche tous les services.
La transversalité est importante dans ce futur exécutif. Le bureau économie et tourisme, dirigé par Vincent Imhoff, en plus des travaux de l'entretien et des espaces verts, en est la preuve. Antoine Dormont prend quant à lui les rênes de l'urbanisme et de la mobilité, une thématique plus qu'importante à Vevey. Antoine Dormont.
Les enjeux de mobilité à Vevey sont effectivement extrêmement présents et ont suscité et suscitent évidemment beaucoup d'attentes. Donc c'est clair que c'est un pôle sur lequel il faudra mettre l'accent pour pouvoir répondre aux différents défis auxquels on est confronté, principalement la place de la voiture en ville et puis le développement de la mobilité douce, qui sont deux thèmes qui reviennent très souvent dans le débat public.
Alexandra Melchior dirigera quant à elle la culture et son dicastère va se séparer des murs communaux. Tout sera désormais géré par Pascal Molia qui reprend les bâtiments, la gérance et l'énergie. Une tâche importante pour la ville dont les possessions immobilières sont valorisées à plus de 500 millions de francs. Pascal Molia.
Pour Vevey, c'est extrêmement particulier parce qu'on a une des communes qui a le plus grand patrimoine par habitant. Donc en termes d'immeubles, eh ben évidemment, c'est un enjeu capital dans le cadre d'une ville qui se cherche ses ressources et qui a envie d'évoluer dans le sens d'une efficience et d'une efficacité énergétique. Et ça fait quand même un certain nombre d'années que le taux de rénovation est un peu trop bas en fait par rapport à ce qu'on aurait dû appliquer. Donc là, on a un enjeu qui est quand même assez élevé au niveau de la ville.
Une piste supplémentaire de revenus donc. À noter qu'il n'y aura pas d'embauche dans les différents services. Malgré ces remaniements, les finances communales sont sous l'œil des conseillers communaux et de la population. Et les regards, Pascal Molia sait qu'il va devoir s'y habituer.
Écoutez, je pense que des yeux, il y en a 21 000 dans le dos de 7 personnes. Chacun dans nos charges et fonctions, on aura des regards dans le dos et devant et sur tous les côtés parce que, évidemment, il y a beaucoup d'attentes à la fois de la population et de l'administration.
L'administration qui a également pris part à la répartition des dicastères veveysans.
La nouvelle municipalité de Vevey prêtera serment cet après-midi. La législature actuelle se conclura par 2 conseils communaux le 17 et le 24 juin.
1 million d'habitants dans le canton de Vaud.
C'est ce qui pourrait arriver en 2044 selon une étude sur les perspectives démographiques réalisées par Statistique Vaud. Grâce notamment aux soldats naturels, à savoir l'excédent des naissances sur les décès, mais surtout à l'arrivée de populations étrangères. Une tendance que le canton de Vaud a déjà connue par le passé et qui s'est très bien déroulée selon Pascal Broulis, chef du département vaudois des finances.
Alors faisons juste un tout petit zoom en arrière. 2616 000 habitants. 2020, on a dépassé les 810 000 habitants. Donc un tiers de population en plus, en 20 ans. Pour ceux qui se souviennent, le passage à l'an 2000, c'était hier. Donc ça s'est passé assez bien. On n'a pas tous les jours des tensions entre les communautés, on n'a pas de quartier à risque. Oui, il y a des fois des soucis, des petits problèmes qui arrivent, mais on peut dire que ces 20 dernières années, l'intégration s'est faite remarquablement bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des politiques de proximité. La Suisse travaille sur 3 niveaux, principalement au niveau de l'intégration commune, intègre le citoyen ou l'arrivant sur son territoire, le canton ensuite par ses politiques cantonales de formation, d'éducation, de santé. Et donc on voit que cet accompagnement au final fait qu'on a plutôt un canton calme, posé et qui a des perspectives.
Un canton calme, mais surtout le canton de Vaud est l'un des plus jeunes en termes d'âge, 40,8 ans. Mais selon l'étude, cela ne devrait pas durer. En effet, le vieillissement de la population devrait augmenter le nombre de seniors, passant de 16,5% actuellement à près de 22, voire 24% en 2050. Même si pour le moment, il y a une certaine stabilité, on retrouve Pascal Broulis.
On voit que depuis 20 ans, on n'a pas aggravé la pyramide des âges. On a gardé à peu près 17% de personnes en retraite, 65 ans et plus. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de garantir qu'on ait une bonne mixité entre ceux qui vieillissent, ceux qui sont en formation et ceux qui travaillent. Alors, comment faire ? Il faut que le canton reste ouvert, intègre, crée des postes de travail où les jeunes en formation ensuite ont des débouchés, ne doivent pas aller à l'étranger pour vivre, et puis qu'on puisse ensuite faire que le vieillissement est pris en charge par les travailleurs dans le domaine sanitaire, dans le domaine social, dans le domaine de la formation, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, et ouvrir les yeux, et puis de partir du principe que pour ceux qui prônent la décroissance démographique, c'est un concept, mais il faut accepter ce que ça amène. Ça amène ensuite des difficultés pour les personnes vieillissantes, pour les prendre en charge financièrement ou même au niveau de la main-d'œuvre. Alors voilà, c'est en tout cas la décroissance démographique, pour ceux qui la vivent au niveau suisse aujourd'hui, il y a des cantons qui la vivent. Je ne vous cache pas qu'ils souhaiteraient l'éliminer le plus rapidement possible, parce que ce n'est pas sain de travailler sur de la décroissance.
Des propos recueillis par Léa Journaud. L'étude s'est également penchée sur la croissance régionale du canton. Elle a noté une probable augmentation de la population dans certaines régions, comme Vevey, alors que d'autres, tels le Pays d'en Haut, connaîtraient une légère augmentation. L'initiative SOS Commune a atteint son premier objectif dans le canton de Vaud. La récolte de signatures a abouti avec plus de 13 000 soutiens valables. Pour rappel, elle demande que le canton reprenne à sa charge l'entier de la facture sociale, dont près de la moitié est actuellement payée par les communes. En contrepartie, ces dernières basculeraient 15 points d'impôt communaux au canton. Dans un communiqué, l'Association des communes vaudoises, qui avait pris le risque en juillet 2020 de quitter la table des négociations, estime aujourd'hui que ce choix assumé porte ses premiers fruits. De son côté, l'Union des communes vaudoises indique qu'en ne respectant pas l'accord au moment du bouclement des comptes 2020, le Conseil d'État a rompu la confiance avec les communes, donné un coup d'élan à l'initiative populaire et mis en échec la réforme péréquative en cours. Le National empoigne la réforme de l'AVS aujourd'hui. Sans surprise, le relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans devrait passer la rampe, comme cela a déjà été le cas au Conseil des États. Ce sont les compensations pour faire passer la pilule qui devraient animer les débats. Si le Conseil fédéral avait prévu de les étaler sur 9 ans, le Conseil des États a durci ses prétentions. Les femmes de la génération transitoire devraient obtenir un supplément à la rente. Rappelons que la révision vise à restructurer le premier pilier qui fait face à un important déficit de financement en raison de l'évolution démographique.
Le Conseil national toujours persiste et signe, il veut mieux protéger les mineurs contre les films et les jeux vidéo inappropriés.
Après avoir accepté en mars l'entrée en matière, il a validé aujourd'hui le concept proposé par le gouvernement. Le projet concerne aussi bien les acteurs traditionnels que les services de streaming ou les plateformes virtuelles. L'objectif, unifier les règles concernant l'âge requis pour accéder à certains contenus ainsi que les contrôles que la branche devra mettre en place. La majorité des élus, composée de la gauche, du centre et des Verts libéraux, a même décidé de muscler le texte. Présentation des points forts du projet avec la socialiste fribourgeoise Valérie Pilaire-Carrard, présidente de la commission chargée d'étudier le dossier.
Un renforcement de la prévention, un meilleur soutien aussi au programme national Jeunesse et Médias. C'est une réglementation plus importante sur les microtransactions. Ces microtransactions ont un effet addictif auprès des jeunes, donc c'était important de pouvoir indiquer qu'un jeu contient des achats intégrés pour que les parents aussi aient cette information et choisissent ce type de jeu en toute connaissance de cause. Et puis c'est un renforcement aussi d'experts dans des organisations qui seront à même de juger si le jeu est favorable à tel âge pour les enfants.
L'UDC et le PLR ont tenté en vain d'assouplir le projet en proposant par exemple de laisser à la branche la possibilité de s'autoréguler sans ingérence des autorités. Au final, si l'utilité du texte n'est pas remise en question, c'est sa rigidité qui pose problème. Les explications de la libérale radicale Genevoix Simon de Montmoulin, également membre de la commission.
Je pense qu'il faut des évolutions. Les évolutions sont nécessaires vu les nouveaux supports mis à disposition. Une harmonisation était nécessaire. Cette loi de co-régulation, de mon point de vue, ne va pas répondre à l'entier de ces revendications dans la mesure où l'essentiel des dispositions figure dans la loi. Nous aurions souhaité que ça figure plus au niveau des ordonnances puisque l'évolution dans le domaine des jeux vidéo est extrêmement rapide. Dans le domaine du numérique aussi, ça suppose une adaptation dynamique, ce qui est évidemment moins possible lorsqu'on a affaire à une base légale et ce qui devrait être possible lorsqu'il s'agit d'une ordonnance, par exemple.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Hélène Yost. Le dossier passe au Conseil des États. À l'étranger, 10 employés de l'organisation de déminage Allo Trust ont été tués dans la province de Baghlan, au nord de l'Afghanistan, a affirmé aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. Celui-ci accuse les talibans d'avoir mené l'attaque. Hier soir, les talibans sont entrés dans l'enceinte d'un organisme chargé d'opérations de déminage et ont ouvert le feu sur tout le monde, a déclaré à la presse le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Tarek Aryan. L'attaque s'est produite vers 22h à environ 260 km au nord de Kaboul, quand près de 110 démineurs, des hommes de la région, se reposaient dans le camp Moon de l'organisation après avoir nettoyé un champ de mines. Le Allo Trust a été fondé en 1988 pour retirer les mines laissées sur le sol afghan après l'occupation soviétique qui a duré près d'une décennie. Aujourd'hui, l'organisation humanitaire emploie plus de 2600 Afghans selon son site internet et a déminé près de 80% des champs de mines et de batailles identifiés dans le pays. États-Unis et Mexique ont eu des discussions franches et productives sur la question de l'immigration. C'est ce qu'a affirmé hier la vice-présidente américaine Kamala Harris en visite au Mexique. Pour elle, il est nécessaire de comprendre pourquoi des milliers de candidats à l'immigration franchissent la frontière des États-Unis. Un protocole d'accord a été signé entre les deux pays voisins afin que, selon la vice-présidente américaine, afin de s'attaquer aux causes profondes de la migration.
Lourdes va renouer avec ses pèlerins.
Le sanctuaire français s'est dit prêt à accueillir au cours des prochains mois environ 60% des pèlerinages habituels, surtout des Français, c'est ce qu'a indiqué hier le recteur de Lourdes à l'agence France Presse. L'an dernier, ce sont plus de 85% des pèlerinages qui ont été annulés. Avant la crise sanitaire, ce sont des millions de fidèles du monde entier qui faisaient une halte dans la commune française chaque année. Un troupeau d'éléphants sauvages continue de tenir la Chine en haleine. Échappés d'une réserve du sud-ouest du pays, 15 pachydernes ont déjà parcouru quelques 500 km à travers le pays. Ils ont ravagé des cultures, occasionné de nombreux dégâts matériels, piqué un somme sur de grands axes routiers. Une histoire qui passionne les habitants du pays. 400 personnes sont mobilisées pour suivre le périple de ces éléphants qui se voient interdire l'accès à certaines villes grâce à des barrages de camions. La raison de leur inhabituelle migration reste un mystère à ce jour. Et le suspense reste entier au Pérou, dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle. Pedro Castillo maintient une très légère avance sur sa rivale Keiko Fujimori, mais les deux candidats sont toujours presque à égalité, 50,31% des voix contre 49,69%. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo vont suivre de près les journalistes en provenance de l'étranger. Seiko Hashimoto, présidente du comité d'organisation, a annoncé hier que les représentants des médias qui ne sont pas établis au Japon seront constamment géolocalisés par GPS. Quelques 6000 personnes seront concernées. En raison de la crise sanitaire, elles devront aussi fournir une liste des lieux où elles prévoient de se rendre durant les JO. En cas de non-respect de ces règles, leur accréditation pourrait être retirée. En parallèle, les organisateurs prévoient aussi de vacciner les 70 000 bénévoles qui œuvreront sur les différents sites de compétition entre le 23 juillet et le 8 août. En football, Giorgio Contini a rebondi du côté de Zurich. Le technicien de 47 ans a été nommé entraîneur de Grasshopper. Les Sauterelles retrouveront d'ailleurs la Super League la saison prochaine. Giorgio Contini a été engagé alors qu'il était libre de tout contrat après son départ de Lausanne où il a œuvré durant 3 ans.
Une vingtaine de motards chablaisiens auront rendu un dernier hommage hier à Jason Dupasquier.
Les funérailles du jeune pilote fribourgeois décédé il y a 10 jours lors des qualifications du Grand Prix d'Italie ont eu lieu dans l'après-midi à Bulle. À cette occasion, plusieurs amateurs de deux roues de la région se sont réunis à Aigle afin d'honorer la mémoire du sportif gruérien disparu à l'âge de 19 ans. Ils ont alors fait le déplacement tous ensemble sur leur monture. À l'origine de cette initiative, le montaison David Severo ne pouvait pas envisager de ne pas montrer son soutien à la famille de Jason Dupasquier.
comme tout amateur de moto qui aime bien voir un MotoGP un week-end assis sur son canapé, enfin voilà, il y a toujours cette passion au fond. Je pense qu'on a tous été un peu attristés par l'événement. Et puis voilà, c'est quelque chose que bah, moi ça m'a attristé. En plus, c'est un jeune d'ici de la région, de Bulle. Et au niveau des réseaux sociaux, ça a beaucoup parlé. Et puis voilà, c'est pour moi et puis pour ceux ici qui sont venus, qui sont présents aujourd'hui, c'est un hommage qu'on peut leur rendre, quoi.
Des propos recueillis par Julien Traxel. À noter qu'au terme de la cérémonie, David Severo et ses amis ont pris place dans un cortège de plus de 500 motos qui ont accompagné la dépouille de Jason Dupasquier jusqu'au village de Sorance.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Elion, votre partenaire pour vos installations solaires, batteries, pompes à chaleur, ainsi que pour la mobilité électrique dans votre région. Elion.ch.
Le temps sera assez ensoleillé en plaine, plus nuageux en montagne, avec la possibilité à tout moment maintenant de voir tomber une averse ou un orage en montagne. Et ces averses ou orages pourront déborder en plaine. Et Météo Suisse nous rend attentifs aux cumuls de pluie qui pourront être localement importants. Il va faire jusqu'à 22 degrés au meilleur de la journée aujourd'hui en plaine, 18 à 1000 mètres. Pour demain, le temps sera bien ensoleillé. En cours de journée, Météo Suisse nous annonce le développement de cumulus suivi localement d'averses ou d'orages sur les reliefs. Le mercure prendra un petit peu l'ascenseur demain, hein, puisque c'est 25 degrés qui sont attendus au maximum en plaine, 22 à 1000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.